Laudetur Jesus Christus.
Famille, enfants, grands-parents, mis à l'honneur ce week-end à Rome. Leur jubilé s'est conclu par une messe célébrée par le pape Léon XIV hier matin à Saint-Pierre. C'est de la famille que naît l'avenir des peuples, a déclaré le Saint-Père. On l'entendra juste après les titres. En Pologne, le candidat du parti conservateur Droit et Justice remporte l'élection présidentielle. Karol Nawrocki a récolté près de 51% des voix, talonné de près par son rival, le maire libéral de Varsovie. Dans ce journal également, la reprise des négociations directes entre l'Ukraine et la Russie à Istanbul, au lendemain d'une attaque massive de Kiev contre l'aviation russe. Au sud de Gaza, des tirs ont fait 31 morts près d'un centre d'aide humanitaire. Les ONG dénoncent l'incompétence de la société privée américaine chargée de la distribution. Et puis c'est une participation historique qui s'annonce en Corée du Sud. Depuis jeudi, les Coréens votent par anticipation pour l'élection présidentielle de ce mardi, soucieux de clore la crise déclenchée par le président Yoon Suk-yeol. On en parle dans notre dossier en fin de journal.
Radio Vatican, le journal, Alexandra Sirgan.
Bonjour à tous. 15e événement jubilaire de cette année sainte, le jubilé des familles, a eu lieu ce week-end à Rome. Point d'orgue des célébrations, la messe place Saint-Pierre hier matin, présidée par le pape Léon XIV. Devant 70 000 fidèles venus d'une centaine de pays, le souverain pontife a souligné l'importance de la famille, lieu privilégié pour rencontrer Jésus, mais aussi unité d'où naît l'avenir des peuples. Le compte-rendu signé Jean-Benoît Harel.
Christo domande infatti che tutti siamo una sola cosa.
Le Christ demande que tous soient un, a commencé le Saint-Père reprenant l'évangile de Jean. Cette unité du peuple de Dieu est le plus grand bien que l'on puisse désirer, à l'image de l'unité de Dieu dans la Trinité, le Père qui donne la vie, le Fils qui la reçoit et l'Esprit qui la partage, a-t-il expliqué. Dieu qui nous aime comme il s'aime lui-même vient guérir les blessures de notre humanité, a continué le Saint-Père, comme une annonce de pardon et de réconciliation. Insistant sur l'interdépendance des hommes, personne n'ayant choisi de naître, il souligne que cette unité se retrouve d'abord au sein des familles, portée par l'amour des deux époux.
Il matrimonio non è un ideale, ma il canone del vero amore tra l'uomo e la donna. Amore totale, fedele, fecondo.
Le mariage n'est pas un idéal, mais le lieu pour vivre le véritable amour. Préfiguration de cette unité divine, a insisté le pape. Pour lui, le monde d'aujourd'hui a besoin de l'alliance conjugale pour vaincre, avec son pouvoir unificateur et réconciliateur, les forces qui désintègrent les relations et les sociétés. La famille est d'ailleurs le lieu privilégié pour rencontrer Jésus, a continué l'évêque de Rome, avant de conclure sur l'importance de la cellule familiale, car c'est de la famille que naît l'avenir des peuples.
Un compte-rendu signé Jean-Benoît Harel. Avant d'entonner la prière du Regina Coeli, le pape Léon XIV s'est arrêté sur la béatification ce week-end en Pologne de la sœur Christophora Klompfas et de ses 14 compagnes, des religieuses de la congrégation de Sainte Catherine Vierge et Martyre. Elles ont été martyrisées en 1945 par les soldats de l'armée rouge lors de l'invasion soviétique du pays. Malgré le climat de haine et de terreur contre la foi catholique, elles ont continué à servir les malades et les orphelins, a souligné Léon XIV. Le pape a également remercier les professionnels des médias en ce 1er juin, journée mondiale des communications sociales. Il a enfin eu une pensée pour toutes les familles, en particulier celles qui souffrent à cause de la guerre au Moyen-Orient et en Ukraine. Et puis le Vatican était sur le parcours du Giro d'Italia ce dimanche. 159 cyclistes ont été accueillis dans l'après-midi par le pape depuis la place des proto-martyrs romains à l'entrée du Vatican. Les images à retrouver sur notre site internet vaticannews.va. La Pologne connaît le nom de son nouveau président, Karol Nawrocki. Le candidat nationaliste et conservateur a remporté d'une courte tête l'élection devant son rival pro-européen Rafał Trzaskowski. Et les résultats officiels publiés ce matin sont particulièrement serrés. 50,89% des voix contre 49,11%. Et il montre, Olivier Bonnel, combien le pays semble coupé en deux.
Oui, Alexandra, hier soir encore devant leurs partisans, chacun des deux candidats était persuadé d'avoir remporté cette élection. Les premier sondage dit de sortie d'urne donnait d'ailleurs vainqueur le maire de Varsovie, mais c'est bien son rival qui l'emporte. Plus que jamais, la Pologne semble regarder dans deux directions, celle d'une intégration européenne toujours plus forte, incarnée par le Premier ministre libéral Donald Tusk, qui a soutenu Trzaskowski, et celle désormais du nouveau président Nawrocki, qui souhaite en revanche une Pologne nettement plus souverainiste, beaucoup plus critique de Bruxelles, par exemple sur la question migratoire. Karol Nawrocki est jeune, 42 ans, père de trois enfants. Il est un un historien de formation né à Gdansk dans le nord du pays et a reçu le soutien du puissant syndicat Solidarność. Ce boxeur amateur était encore largement inconnu des Polonais il y a quelques mois avant qu'il ne reçoive le soutien du PiS, le parti Droit et Justice. Le nouveau président polonais Aleksandra qui peut compter sur le soutien de l'administration Trump aux États-Unis qui n'a pas caché sa préférence. Les relations entre Nawrocki et le premier ministre polonais s'annoncent orageuses. Nous ne permettrons pas que Tusk ait le monopole du pouvoir, a-t-il lancé hier soir.
Merci Olivier Bonnel. Le président élu très critique de l'Union européenne est également plus sévère que son rival sur le dossier ukrainien. Karol Nawrocki s'oppose à l'adhésion de Kiev à l'OTAN et dénonce les aides accordées aux réfugiés ukrainiens en Pologne. L'Ukraine qui a mené hier une vaste attaque coordonnée de drones contre des aérodromes militaires en Russie. Des attaques allant jusqu'en Sibérie à des milliers de kilomètres du front. Kiev dit avoir détruit environ 40 avions russes utilisés, je cite, pour bombarder les villes ukrainiennes. Une opération préparée depuis plus d'un an et demi selon le président Zelensky. Une attaque à la veille de nouveau pour parler de paix ce lundi à Istanbul. Comme lors de la dernière rencontre du 16 mai, la délégation russe sera menée par Vladimir Medensky, un conseiller de second plan, tandis que celle des Ukrainiens sera conduite par le ministre de la Défense, Roustem Oumerov. Les attentes sont très faibles, notamment pour un cessez-le-feu. Les précisions à Ankara, Dan Andlauer.
La dernière réunion d'Istanbul n'avait pas été très fructueuse. Elle n'avait abouti qu'à un échange de prisonniers, certes important, mais les Ukrainiens étaient repartis sans un cessez-le-feu. La délégation russe avait refusé de négocier la trêve complète et inconditionnelle à laquelle l'Ukraine se dit prête. Elle avait demandé aux négociateurs ukrainiens de lui présenter par écrit leur vision d'un tel cessez-le-feu. Les chances d'y parvenir au cours de cette deuxième rencontre sont infimes. Le président russe Vladimir Poutine affirme d'ailleurs qu'une cessation des combats n'est possible qu'après des négociations sur ce qu'il appelle les causes profondes de la guerre, référence à une série de demandes maximalistes du Kremlin. À Istanbul, ce lundi, la Russie est censée présenter un mémorandum qui détaille ses conditions pour un accord de paix. Son refus de communiquer cette note avant la rencontre est le signe pour Kiev que Moscou n'a pas l'intention de faire progresser les pourparlers et s'obstine à lui soumettre des exigences inacceptables. Après la dernière réunion d'Istanbul, l'Ukraine avait notamment accusé la Russie de lui demander de céder de nouveaux territoires pour instaurer un cessez-le-feu. À Ankara, Anne Andlauer pour Radio Vatican.
La perspective d'un cessez-le-feu qui ne cesse également de s'éloigner à Gaza, le chef d'état-major de l'armée israélienne a ordonné hier l'expansion de l'opération terrestre dans de nouvelles zones dans le sud et le nord de la bande de Gaza. Et puis hier, au moins 31 personnes ont été tuées par des tirs près d'un centre de distribution d'aide humanitaire près de Rafah, dans le sud de l'enclave palestinienne. Un centre géré par une société privée soutenue par les États-Unis. Israël et la société en question nient ces informations, tandis que l'ONU déplore que la distribution d'aide humanitaire soit devenue un piège mortel. Les précisions depuis Jérusalem de Valérie Ferron.
Tout en empêchant depuis le 2 mars dernier l'entrée de l'aide humanitaire gérée par les Nations Unies et les grandes ONG internationales, Israël avec les États-Unis ont mis en place une société privée composée de mercenaires armés pour délivrer des colis alimentaires aux civils palestiniens soumis à une famine sévère par la puissance occupante. Cette société n'a ouvert que deux points de distribution, l'un dans la ville de Rafah, tout au sud, et l'autre dans la région centre, ce qui oblige les civils, épuisés et affamés, à parcourir des dizaines de kilomètres sous les bombardements israéliens pour tenter d'obtenir un peu de farine et quelques boîtes de conserve. Avant d'obtenir un colis, chacun doit passer par un processus d'identification. Plusieurs personnes ont été portées disparues après avoir effectué cette procédure. Ces points de distribution se sont révélés également être un piège mortel pour les enfants et les adultes s'y rendant. Depuis leur ouverture mardi dernier, au moins 45 personnes ont été tuées et 200 autres blessées par des tirs de l'armée israélienne ou de mercenaires sous son contrôle. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
Et puis l'ONG Médecins Sans Frontières a indiqué hier que des personnes qu'elle a soignées sur ce site d'aide se sont fait tirer dessus par tous les côtés, par les forces israéliennes. C'est ce que déclare Médecins Sans Frontières. Tourner la page, c'est le souhait des électeurs sud-coréens qui se rendent aux urnes ce mardi pour élire un nouveau président. Avec la dérive autoritaire du président Yoon Suk-yeol encore dans toutes les têtes, lui qui le 3 décembre dernier avait proclamé la loi martiale et plongé dans une crise inédite la jeune démocratie coréenne. Au terme d'une bataille procédurale acharnée, le président Yoon a finalement été destitué le 4 avril dernier, entraînant la tenue d'élections anticipées. Son parti, le parti du pouvoir au peuple, désormais emmené par l'ancien ministre du Travail Kim Moon-soo, est donné perdant face au Parti démocrate de Lee Jae-myung qui, sauf surprise, devrait l'emporter. Le taux de participation à cette élection s'annonce historique. Preuve en est, 34% des électeurs ont déjà voté par anticipation jeudi et vendredi dernier. Signe d'un regain de vitalité dans la démocratie sud-coréenne, selon Barthélémy Courmont, maître de conférence à l'Université catholique de Lille et spécialiste des questions asiatiques.
Le parti du président Yoon Suk-yeol a été montré du doigt pour son absence de mobilisation contre cette décision d'imposer la loi martiale. Et d'ailleurs, le candidat actuel de ce parti conservateur, le PPP, Kim Moon-soo, est montré du doigt comme n'ayant pas soutenu notamment les parlementaires qui voulaient s'opposer à cette loi martiale. Donc évidemment, la campagne a été particulièrement difficile. Je dirais presque jusqu'à dire qu'elle était perdue d'avance. Mais il est intéressant de voir malgré tout que le candidat conservateur est parvenu à remobiliser une partie de son électorat en misant non pas sur ce passé très récent, très polarisé d'ailleurs dans la vie politique sud-coréenne, mais en revenant sur les fondamentaux de ce parti du pouvoir du peuple, à savoir les questions économiques, mais aussi la relation avec la Corée du Nord qui est au cœur des divisions politiques entre les deux grands partis coréens. Et donc je dirais qu'il fait une campagne qu'on pourrait qualifier de plutôt réussie. Mais cela ne lui permettra pas, a priori, de remporter ce scrutin, d'autant que la participation semble très élevée et ne jouera sans doute pas en sa faveur.
Comment interpréter cette forte mobilisation ?
Un petit peu à la manière d'autres démocraties dans la région, et je pense notamment au Japon. On notait ces dernières années une forme d'affaiblissement de la mobilisation populaire pour les élections, avec un taux de participation qui était en baisse constante. Et là, le contexte et donc la crainte chez les Coréens de se retrouver avec des dirigeants mal élus et qui feraient des choses tout à fait irrationnelles comme cette loi martiale, je pense à mobiliser les Coréens en masse. Et donc on voit que la démocratie et la mobilisation démocratique n'est pas si malade que cela.
En face, c'est le candidat du Parti démocrate Lee Jae-myung qui est le favori dans ce scrutin. Que sait-on de ce candidat lui-même impliqué dans des affaires de corruption ?
Lee Jae-myung, c'est effectivement un personnage qui est bien connu de la vie politique coréenne contemporaine, puisque c'est la troisième fois qu'il se présente à l'élection présidentielle. En 2022, lors de la dernière élection, il était le candidat du Parti démocrate et il avait perdu une très courte tête, d'ailleurs, de quelques dizaines de milliers de voix, contre Yoon Suk-yeol. Donc c'est un personnage qui est considéré comme un dirigeant emblématique et important de ce parti démocrate. Il a été gouverneur d'une des grandes provinces de Corée et effectivement plus récemment, je dirais au cours de la dernière mandature, il a été confronté à deux actualités très, très différentes, très opposées. L'une qui va effectivement ternir son image, avec mise en accusation de faits de corruption. Et puis, on se souvient également qu'en janvier 2024, il a été victime d'une tentative d'assassinat. Un homme qui l'avait attaqué au couteau, il s'en est sorti avec une blessure assez importante malgré tout au niveau du cou. Et cela lui a permis de reprendre un petit peu la main, de reprendre l'initiative et de se positionner comme un homme politique qui peut être aussi ciblé potentiellement par ses opposants.
Que propose-t-il par rapport à la relation de Séoul avec la Corée du Nord ?
Il faut savoir que lui s'inscrit vraiment dans la continuité des présidents qui étaient issus de son parti, qui étaient tous favorables à une politique d'apaisement des tensions avec la Corée du Nord. Il a été très clair sur ce point. S'il est élu, il reprendra le fil du dialogue avec la Corée du Nord qui a été rompu par Yoon Suk-yeol. Et puis, il est également particulièrement sensible au maintien, bien sûr, d'une relation amicale, voire forte avec les États-Unis, mais dans le même temps, d'une relation très proche avec la Chine. Et ça, c'est une rupture avec son prédécesseur et c'est dans la continuité du parti dont il porte les couleurs.
Barthélémy Courmont, maître de conférence à l'Université catholique de Lille et spécialiste des questions asiatiques, était ce matin l'invité de Radio Vatican. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité aux ondes de Radio Vatican. L'actualité en langue française revient à 13h, heure de Rome. Vous serez accompagné d'Olivier Bonnel. D'ici là, belle matinée à toutes et à tous.